Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, elle a chopé avec Pierre Boussaguet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 122e émission du Matin des musiciens jazz du mardi. Aujourd'hui, c'est un musicien aux multiples visages qui nous intéresse, le contrebassiste danois Niels Henning Ørsted Pedersen. Instrumentiste inégalé, sideman demandé par tout le monde et par ailleurs porteur de projets personnels originaux, Niels Henning Ørsted Pedersen, que le monde du jazz avait choisi d'appeler plus simplement par ses initiales, NHOP, fit une carrière de premier plan dans le monde entier sans jamais quitter son port d'attache danois. Élevé dans une famille de musiciens, il abandonne le piano pour la contrebasse à l'âge de 13 ans et maîtrise très vite l'instrument. Encore adolescent, il tient son poste au sein de la rythmique maison du club Montmartre de Copenhague, se confrontant avec Sonny Rollins, Dexter Gordon, Roland Kirk, Stan Getz, Johnny Griffin, Bill Evans, Ben Webster ou encore Jackie McLean, pour n'en citer que quelques-uns. Abondamment sollicité en studio, il constitue une discographie de plusieurs centaines de références au fil des décennies. Mais c'est avec quelques partenaires privilégiés, comme les guitaristes Joey Pass et Ulf Wakenius, ou les pianistes Tete Montoliu, Kenny Drew et Oscar Peterson, qu'il se montre à son meilleur. Accompagnateur d'une impressionnante sûreté rythmique, il est un soliste virtuose, techniquement insurpassé, notamment dans sa manière de jouer avec trois doigts de la main droite. Dans la dernière partie de sa carrière, Niels Henning Ørsted Pedersen se produit davantage sous son nom, souvent dans un contexte qui met en valeur le répertoire traditionnel nordique qu'il arrange avec goût. Et pour relever le défi d'évoquer le style, le jeu et la personnalité de NHOP qui nous a quittés trop tôt à l'âge de 58 ans en 2005, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois dans cette émission le contrebassiste Pierre Boussaguet, avec qui nous avons déjà parlé ici de Ray Brown, qui fut son mentor. Bonjour Pierre Boussaguet.
Bonjour Arnaud.
C'est un petit peu votre yin et votre yang, d'un côté Ray Brown, de l'autre côté NHOP, ce sont deux conceptions différentes de la basse.
J'ai découvert d'abord Ron Carter et ensuite NHOP, et ça a été un choc, c'est-à-dire que je venais juste de me mettre à la contrebasse. C'était tellement impressionnant de précision, de virtuosité, de lyrisme dans l'aigu. Quand il joue vite, une oreille non exercée, on n'a pas le temps d'entendre, de percevoir chaque note. Et vous ensuite, avez... quelqu'un m'a fait remarquer, musicien, que je jouais comme un certain Ray Brown, dit à la française. Cet ami en question, tout de suite, il m'a dit « range ta basse, monte dans la voiture ». On est allé chez lui. Et là, il m'a dit « assieds-toi dans le fauteuil ». Il me sert un whisky, j'avais 16 ans. Et je dis « mais je bois pas ». Il me dit « tais-toi ». Et puis, il me tend un cigare, je dis « mais je fume pas, tais-toi ». Et là, il passe un disque et c'était Oscar Peterson avec Ray Brown en duo dans Tenderley. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ray Brown. Et le choc, ça a été... J'entendais un son de basse exactement comme le son inconsciemment que je recherchais. Ouais. C'était tout à fait naturel de suivre cette route-là.
Et la voix de NHOP que vous aviez découverte peu.
Alors là c'était... décidément, c'est ma psychanalyse aujourd'hui. NHOP, je me suis mis un verrou tout de suite. Je l'ai enlevé la veille de mon anniversaire en 2010. J'ai tout repris à zéro en me disant ben, je travaille un petit peu tous les jours et on va bien voir.
Et puisque vous parlez de performance, il est vrai que la première image que l'on a, c'est de l'intense virtuosité. Mmh. Mais NHOP, ce n'était pas que cela, c'était aussi un formidable mélodiste.
Thank you.
extrait d'un disque paru sous le nom de NHOP, Niels Henning Ørsted Pedersen, enregistré au Danemark en 1997. Oscar Peterson au piano, Ulf Wakenius à la guitare et bien sûr NHOP à la contrebasse. C'est une mélodie traditionnelle que NHOP a arrangée. Pierre Bousseguet, je vous laisse dire le titre puisque vous allez souvent au Danemark.
Eiskovens Diebe Stille Ruhe.
Ce qui veut dire une tranquillité dans les bois, c'est d'ailleurs la traduction anglaise qui figure sur le disque.
Tranquillité, sérénité dans les bois.
Dans la forêt. Alors effectivement, on a un sentiment d'espace, de ces grands espaces nordiques, aussi parce que c'est une musique relativement minimaliste, due aussi à des raisons de santé de la part d'Oscar Peterson, qui a eu une hémiplégie peu avant cet enregistrement, et du coup il joue essentiellement avec la main droite et de manière très épurée.
Ouais. Et d'ailleurs, pour les soi-disant spécialistes d'Oscar Peterson, le nombre de fois où j'ai piégé des gens en demandant simplement qui joue du piano.
Ah oui, il est presque méconnaissable. Quand on sait
quand
le
on
contexte
connaît bien Oscar,
et qu'on voit que c'est Ulf Wakenius et NHOP, on devine que ça peut être Oscar Peterson. Et puis on entend aussi dans son jeu des choses qui sont très proches.
Cette prétention, quand on connaît bien la musique d'Oscar, simplement le toucher.
On a commencé presque par la fin, 1997. Il faut remonter une cinquantaine d'années. On est à Ørsted. C'est près de Roskilde, c'est sur l'île de Zélande, au Danemark bien sûr, le 27 mai 1946, c'est la naissance de Niels. Alors il naît dans une famille, tout le monde fait de la musique.
Ça se trouve à environ 25-30 km de Copenhague. J'ai vu la maison où il est né, parce que ses parents s'occupaient d'une école. Au Danemark, la plupart des écoles appliquent les préceptes de Grundtvig. À cette époque-là, déjà, le papa de la famille, il écoute la radio et déjà Charlie Parker.
Oui, en 1946, c'est au tout début.
Voilà, il y a le frère aîné qui joue de la trompette, le suivi d'un autre frère qui joue du saxophone alto, la sœur qui est pianiste, et le meilleur ami de Niels Henning qui est pianiste. Et c'est parce que ce pianiste-là, qui s'appelle Ole Kok Hansen,
qui est un musicien de jazz tout à fait célèbre au Danemark.
Extraordinaire, je viens de jouer 15 jours avec lui.
Est né en avril 1945, lui, donc il a un an de plus.
Voilà, et tout ça se passe dans un petit village. Alors, Ørsted, c'est simplement, il y a une route toute droite. La campagne danoise est assez monotone. Et vous avez quelques maisons d'un côté, une église sur la droite et l'école sur la gauche avec quelques fermes isolées. Et là, il y a tout ce noyau de musiciens. Et Niels Henning se met à la contrebasse. On lui dit, écoute, c'est Ole qui joue du piano, donc tu as qu'à prendre la contrebasse. Il avait 13 ans. En moins de 4 ou 5 jours, il pouvait jouer toutes les parties de basse des morceaux de Count Basie.
C'est pas mal.
Et au bout de 6 mois, un an de contrebasse, c'est impensable. Son frère trompettiste et le saxophoniste lui disent tiens, puisqu'on travaille des morceaux de Charlie Parker, des morceaux bebop, ce serait bien que tu travailles les thèmes aussi à la basse. Et c'est là où il les a appris.
À 14 ans, il est professionnel. À 15 ans, il joue dans les clubs, il accompagne tout le monde. Il fait ses débuts au Jazzhus Montmartre, ce fameux club de Copenhague, en 1961. Et à 17 ans, il lui propose de rejoindre l'orchestre de Count Basie. Il refuse. Il refuse parce qu'il est trop jeune pour travailler aux États-Unis.
C'est impossible qu'un mineur puisse aller travailler avec l'orchestre de Basie aux États-Unis.
Alors bien sûr, il joue avec tout le monde depuis le début des années 60. On le sait, Sonny Rollins, Bill Evans, Ben Webster. On pourrait faire une liste absolument invraisemblable. Pareil, il enregistre aussi en studio. C'est quelqu'un d'extrêmement demandé parce qu'il est à la fois très solide et très virtuose aussi en solo.
Il a développé une virtuosité sur l'instrument comme personne n'a encore fait à ce jour. Mais surtout l'intelligence, sans jamais se départir de son rôle de bassiste. Il y a un phénomène physique sur la contrebasse. Très souvent, on reproche au bassiste de jouer trop dans le médium et dans l'aigu quand on accompagne. Il y a une raison toute simplement physique, c'est que vous laissez la main gauche toujours là-haut. Mm-hmm. On ne s'en rend même pas compte, mais ça fatigue l'épaule. Alors, de temps en temps, on a la main qui vient dans le médium parce que simplement le bras a envie de se reposer un petit peu. Bien, lui, NHOP ne le fait pas. Ouais. S'il monte dans le médium ou dans l'aigu, c'est uniquement parce que c'est un choix musical.
Pour des raisons musicales.
Sinon, il se tient comme Ron Carter à la première position.
Alors, il y a des centaines, évidemment, de témoignages enregistrés de ce rôle de bassiste qu'aimait beaucoup tenir NHOP. On en a choisi un pour continuer cette émission. Enregistré à Montreux en 1977, il est aux côtés du pianiste Ray Bryant, du batteur Jimmy Smith et de l'altiste saxophoniste Benny Carter. Mm-hmm. Un concert dans un festival comme il y en eut des centaines pour Rena Chopé, Nils Henning Gostert-Pedersen ici à la contrebasse. Il fait le lien entre le vétéran ici, Benny Carter, l'altiste, et puis le pianiste Ray Bryant qui appartient à la génération suivante. Il y a Jimmy Smith à la batterie. Mais on sent bien que c'est Rena Chopé qui fait le lien. Et dans le lien, il y a cette idée de legato, Pierre Boussaguet.
Oui. On est déboussolé la première fois qu'on entend ça, parce que cette basse, elle a un son, d'abord elle a un son amplifié, on n'est pas habitué à ça. Du coup, ça dérange les us et coutumes, mais une fois qu'on a passé ce cap, on se rend compte qu'en fait, chaque note est longue. Et donc, ça permet d'entendre parfaitement le contrepoint entre le saxophone, les accords du pianiste et la contrebasse. Alors bien sûr, c'est un jeu beaucoup plus dangereux. C'est drôle parce qu'à l'instant, je comprends pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas ça. Moi-même, j'ai un son assez amplifié dans cet esprit-là et je comprends pourquoi ça dérange certaines personnes.
Vous avez envie qu'on entende les notes et pas seulement la pulsation.
Voilà.
Alors cette conception en notes longues, en phrasé legato, on l'entend aussi bien dans l'accompagnement et dans le dialogue, par exemple avec un pianiste comme Tété Montolu, avec lequel il a beaucoup joué, mais aussi lors de ses solos. Alors on va prendre un exemple dans What's New, enregistré en 1976 en trio avec le pianiste catalan Tété Montolu et le batteur Albert Heath. On va l'écouter dans l'exposé pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis ensuite on ira au solo de Rena Chopé. Dialogue entre Tété Montolu et Rena Chopé avec Albert Heath à la batterie. On va un petit peu plus loin pour le solo de contrebasse de Rena Chopé. Thank you. Autre extrait de ce What's New enregistré en 1976 avec Tété Monteliu, Albert Sis et bien sûr la contrebasse de NHOP, bien enregistré ici, hein, Pierre Bousséquet.
Là, ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il y a un micro ou deux devant la contrebasse, il n'y a pas d'ampli, il n'y a rien.
Il n'a pas sa cellule comme on entend parfois, comme on mettait dans les années 70, dans ces années-là.
Voilà, et c'est en fait dans l'exemple précédent, sur Little Words, je comprends la critique, c'est qu'à cette époque-là, les micros dont on disposait les cellules avaient ce son caractéristique des années 70 à 80.
Surtout dans un festival, sur une grande scène.
Voilà. Et c'est encore le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, si, quand on fait un disque live, très souvent, on passe par un ampli ou par une basse qui n'est pas très bien réglée ou une cellule qui n'est pas... Il y a d'énormes, vraiment d'énormes progrès qui ont été faits depuis une dizaine d'années. Et la façon dont on amplifie les basses aujourd'hui, il y a absolument moyen d'avoir un son amplifié qui a sa juste valeur d'amplification et non pas de déformation.
Alors ici, on a de la chance, Pierre Bousséguet, puisqu'on est au studio 119 à Radio France, qui est une très bonne acoustique naturelle. Et puis en plus, on a un excellent ingénieur du son aujourd'hui avec Jean-Michel Bernaud. Donc, si vous voulez bien rejoindre votre contrebasse, on va essayer de donner quelques exemples sur ce style extraordinaire de Nils-Henrik Nygaard-Pedersen. On va parler de la main gauche, de la main droite et puis des deux ensemble. C'est ça. Si on commençait par la main droite. Alors la main droite, c'est là où vous allez jouer vos lignes de basse, où vous allez les articuler avec les doigts. Pendant longtemps dans l'histoire du jazz, on a joué avec un seul doigt et puis ensuite avec deux. Et puis j'ai l'impression qu'avec NHOP, là, on a encore une autre étape.
Mon professeur de contrebasse, qui était exclusivement classique, me disait à l'époque, vous allez jouer du pizzicato, mettez-vous bien dans la tête que votre main droite, c'est ni plus ni moins que notre archer. Ce qui fait la force de gens comme Ray Brown, Ron Carter ou Nils Henning, c'est une précision diabolique de leur main droite. Quand on joue à un doigt, ça permet d'avoir des notes qui sont parfaitement égales. Voici un exemple. Le problème, c'est que dès qu'on va vouloir jouer un peu plus vite, il y a une vitesse au-delà de laquelle c'est physique, on ne peut pas aller. Donc je peux jouer, par exemple... Ray Brown était le maître de cette façon de faire. Alors, il cumulait le fait de jouer à un doigt, et on n'a pas d'autre mot, on appelle ça faire un hammer. Faire un hammer, c'est-à-dire je vais jouer une note, celle-ci par exemple, et pour jouer la suivante, je vais la faire comme si je la faisais dans le même coup d'archer. Donc, au lieu de jouer, je vais faire... Voilà, je n'attaque que la première, et c'est la main gauche qui va attaquer la seconde. Alors, en cumulant les deux, on arrive effectivement à jouer à un doigt et à jouer ce que faisait Ray Brown. On arrive à ce genre de choses. L'avantage, c'est de pouvoir garder ce son à un doigt. L'inconvénient, c'est qu'on a quand même des notes qui sont un petit peu fantômes. Elles ne sont pas toutes à égalité. L'avantage de cette inégalité... c'est que ça permet d'avoir des notes plus syncopées que d'autres, plus accentuées. Donc je vais essayer de le faire sur un exemple de morceau. Si je joue par exemple... Tout ça, j'ai pu le faire à un doigt. Maintenant, si je joue la même chose avec deux doigts, vous allez entendre que le son n'est plus le même. Donc là, je vais d'abord faire quelques notes avec deux doigts. Ça devient tout de suite plus lié. Si je reprends un exemple dans un morceau. Ça permet d'avoir quelque chose de plus souple. Nils Henning, lui, a spontanément s'est mis à jouer à trois doigts. Si je joue... quelque chose de beaucoup plus doux et qui tourne beaucoup mieux. Si je prends cette phrase-là à un doigt, vous entendez au bout d'un moment, il y a cette espèce de petit tac-tac-tac-tac-tac sur chaque note. Alors, c'est ce qu'on appelle du staccato. Si on veut ce son-là, il faut le faire à un doigt. Mais on est limité en vitesse. Je ne peux pas aller plus vite que ça. À deux doigts, on va pouvoir l'alléger. Et on va pouvoir aller un peu plus vite. Maintenant, à trois doigts, on dirait presque qu'il n'y a qu'une seule note, comme s'il avait un seul coup d'archer. Et c'est là où on obtient le legato. Quant à la vitesse, évidemment. je vais vous l'illustrer sur une partie de basse en prenant un petit solo. Donc je vais essayer de tout faire à trois doigts.
Dites-moi, Pierre Bousseguet, là on a parlé de la main droite, mais à la main gauche, NHOP était un petit peu pionnier aussi dans sa façon de placer les doigts.
Oui, il y a deux écoles dans la contrebasse, il y a le doigté italien pour la main gauche et le doigté français. Le doigté français, on utilise la main gauche, l'index, le majeur, l'auriculaire, jusqu'à la position d'octave. Si je veux monter une gamme chromatique, pour être un petit peu technique, je pars sur la corde de sol, je vais partir premier doigt sur le sol dièse, le majeur en suivant, l'auriculaire, puis je vais déplacer ma main et recommencer. Index, majeur, auriculaire, de nouveau index, majeur, auriculaire, de nouveau index, majeur, et là on prend l'annulaire quand on arrive au sol, tout simplement parce qu'il y a le corps de l'instrument, on touche avec le poignet, donc on ne peut pas le jouer le quatrième. L'école italienne, ils font pareil, mais en utilisant 1, 3 et 4, c'est-à-dire index, annulaire, et auriculaire. Et NHOP, lui, a eu l'idée de jouer avec les quatre doigts. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle le démanché. C'est-à-dire, un démanché, c'est quand on déplace la main, comme un curseur qu'on déplacerait. Donc là, je joue une main. Là, je suis obligé de démancher pour refaire 1, 2 et 4, puis refaire. Donc, sur la totalité, je vais avoir un déplacement, 2, 3. Et ça s'entend. Il n'y a rien à faire. Au bout d'un moment, on entend. Maintenant, Nils Henning, il jouait l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ensuite, il déplace. Ce qui fait qu'il obtient. Et vous avez entendu tout de suite par rapport à l'exemple d'avant, c'est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus homogène.
On limite les démanchés.
Voilà. Alors ensuite, illustration sur une phrase qui est caractéristique, on l'entend dans tous ses solos. Ça, ce sont des phrases de trompettistes. Ce genre de phrase qui va faire, par exemple. Avec un doigté français ou italien, vous sentez que ma main se déplace. Tandis que là, à quatre doigts, je peux très bien faire. Voilà l'illustration.
Merci beaucoup Pierre Bousseguet pour ces explications. On va peut-être laisser maintenant NHOP prendre le relais parce que c'est quand même un peu fatigant tout ça. Et NHOP, lui, il va très très loin dans ce mouvement perpétuel de Paganini. Perpétuel de Niccolo Paganini, enregistré par Nils Henning Ørsted Pedersen en 1984. Pierre Bousseguet, si vous voulez bien revenir ici à la table du studio, je vous propose un petit jeu entre Ray Brown et NHOP, qui sont vos deux bassistes préférés. On peut peut-être quand même ajouter Ron Carter, s'il en faut un troisième. On va les entendre ici dialoguer chacun leur tour avec Oscar Peterson, puisqu'ils ont tous les deux beaucoup joué avec Oscar. Ici, nous sommes sur la scène du Festival de Montreux, le 15 juillet 1977, et Oscar Peterson joue « You Look Good to Me », et il y a Ray Brown et aussi NHOP. Alors on va laisser les micros ouverts, comme ça on va pouvoir un petit peu commenter pour dire à nos auditeurs ce qui se passe quand c'est Ray Brown et ce qui se passe quand c'est NHOP. Thank you.
D'abord, vous avez entendu le pied d'Oscar Peterson ?
Qui donne le tempo ?
Ah, tout de suite, on est dans le tempo, c'est formidable ça.
Qui joue là ?
Rembrandt. Avec un legato formidable. Et on entend le pied d'Oscar qui veut que ça passe à 4 temps.
Oui, parce que là, il ne joue que le premier temps de chaque mesure.
Voilà.
Et ça va partir. Un temps sur deux.
Un temps sur deux. Vous entendez à un doigt la régularité, là, c'est diabolique. D'Oscar qui appelle. Et là, j'ai toujours la sensation, c'est comme quand on met les 4 réacteurs sur un 747. Ça décolle.
Chaque note parfaitement énoncée.
Ça, c'est un doigt. Il y a eu des bouts de phrase où il est passé à deux doigts. Le Rembrandt faisait les deux. Deux doigts.
Ah, un autre bassiste arrive.
Ouais, voilà, un NHOP qui arrive. Des doubles cordes, donc il joue en accord. Et un mélange d'harmoniques. Il y a un peu moins d'attaque, et il y a encore plus de legato. Et là maintenant on passe à deux temps pour le bassiste.
Il joue plus en syncope aussi. Hein.
Alors ce qu'il fait en fait, sur la base, comme Rembrandt, sur la base d'un temps sur deux, entre ces notes-là, il glisse des bouts de triolet, des bouts de double croche. Et alors l'intérêt, c'est pour ça qu'Oscar a voulu ce concert. C'est que du coup, Oscar ne joue plus de la même manière. Et là on passe à quatre temps. Grâce à ce legato et à cette technique à trois doigts, il y a un moteur, comme avec Rembrandt, cette pulsation elle est là, mais elle a une double sensation. D'un côté on a l'impression qu'elle pousse, qu'elle avance, et en même temps on a presque l'impression qu'elle est derrière. Parce que le son occupe tout le temps. Voilà, et là grâce au legato et dans l'aigu, on obtient ce lyrisme incroyable. Fait limpide comme un filet d'eau. Ray Brown reprend. Là, on entend bien la différence de personnalité entre les deux conceptions de jeu. Et Oscar ne joue pas pareil. Ray Brown. Là, les deux ont joué. Et les deux bassistes. Là.
C'était donc en juillet 1977, cette rencontre au sommet entre les deux grands bassistes historiques pour Oscar Peterson, Ray Brown et Enna Chopé. Oscar Peterson avec Enna Chopé et Terry Clark se retrouvent 4 ans plus tard à Montreux pour un disque qui reste dans l'histoire du jazz, ça s'appelle Nigerian Marketplace. Thank you. Nigerian Marketplace, une composition d'Oscar Peterson, ici au Festival de Montreux en juillet 1981, avec Terry Clark à la batterie, et puis bien sûr Nils Henning Oster Peterson à la contrebasse. Et nous sommes en 1981, c'est l'époque où le succès du bassiste électrique Jaco Pastorius bat son plein. On a l'impression que NHOP a écouté Jaco Pastorius aussi.
Il adorait Jaco. Et il y a 3 semaines, je jouais au Danemark. J'ai longuement discuté avec une de ses filles qui me rapportait que justement pour lui, par rapport aux amateurs de jazz, il ne comprenait pas. Et il disait simplement, mais j'aime les deux. J'adore Rembrandt, j'adore la contrebasse, mais j'adore ce que fait Jaco. Par son amour et sa connaissance de la musique de Jaco, en fait, il y a beaucoup d'éléments musicaux qu'il a transposés sur la contrebasse.
Ce qui fait aussi avancer l'instrument.
Évidemment, l'avancée d'un instrument, elle se fait toujours comme ça, c'est quand on va chercher ailleurs, quand on pense un petit peu en dehors de la boîte.
NHOP, très connu pour sa collaboration avec Oscar Peterson, avec lequel il jouait depuis le début des années 70, mais bien sûr, il a joué avec beaucoup d'autres. Il faudrait citer aussi le pianiste Kenny Drew. Alors lui, c'était un Américain qui s'est installé à Copenhague dès les années 60. Il nous a quittés en 1993. Entre-temps, il a beaucoup joué avec NHOP. C'était en quelque sorte la rythmique maison du club.
En tant que sideman, mais surtout, très vite, ils sont devenus très amis et musicalement, ils ont eu l'idée de jouer en duo et ensuite en trio. Et ça durant près de 30 ans. 30 ans que Kenny Drew a passé à Copenhague.
On les écoute ici en 1974 en duo dans ce Vikings Blues. Vikings Blues, Kenny Drew, dialoguant ici avec NHOP qui signait cette composition. C'était enregistré à Copenhague en 1977, le témoignage d'un tandem qui a fonctionné pendant de très nombreuses années entre le pianiste américain Kenny Drew qui s'était installé au Danemark et le bassiste local, si l'on peut dire, NHOP. Enfin, il a joué dans le monde entier tout de même, mais c'est vrai qu'il est resté toute sa vie au Danemark.
Oui.
Alors, pour revenir sur cette idée du contrepoint et de l'importance du legato dans l'élaboration de ce contrepoint que NHOP savait faire vraiment parmi les meilleurs, il y a ce dialogue enregistré avec Joe Pass. C'est pas forcément toujours évident de dialoguer avec un guitariste quand on veut être vraiment sur un pied d'égalité avec un virtuose comme Joe Pass.
Le premier disque où j'ai découvert NHOP, c'était ce disque-là.
Avec le guitariste Joe Pass.
Il s'amuse, alors encore une fois, c'est un vrai duo. Et c'est ça la force de la chose, c'est pas simplement que ce sont deux virtuoses, le but n'est pas là. L'alchimie entre eux, c'est vraiment un dialogue. Ce n'est pas une basse qui accompagne un guitariste, ce n'est pas un guitariste qui va accompagner une basse. Ce sont deux musiciens qui spontanément ont envie de discuter et parlent quelque part la même langue. Enfin, chacun avec son accent, mais c'est un vrai dialogue.
Un thème prétexte ici sur la structure de l'Anatole, c'est Oléo de Sonny Rollins. Thank you. C'était en 1978, Oléo de Sonny Rollins, ici par le guitariste Joey Pass, en duo avec le contrebassiste NHOP. Ils s'amusent, ils se lancent des petites piques, des petites provocations, des petits défis, puis ils reprennent au vol ce que le premier vient de lancer.
Cette espèce de phrase folle à la fin de l'échange, où on entend cette descente chromatique, Nils Henning là, qui joue à trois doigts. Blablabla. Et quand Joe
passe le repas,
lui, il le joue finalement avec un coup de médiator, donc il le joue comme Raymond l'aurait fait sur une basse. Et on entend parfaitement les deux phrases qui fonctionnent, avec chacune, ces deux techniques différentes, les avantages et les inconvénients.
À partir des années 80, NHOP va concevoir un certain nombre de projets personnels, à la fois en termes d'orchestre et puis en termes d'enregistrement, et souvent en empruntant à la chanson traditionnelle ou au folklore danois.
En Scandinavie, les gens sont très attachés à leur folklore et tout le monde connaît les airs. Les mélodies danoises sont extrêmement porteuses. C'est très proche des mélodies irlandaises. Il y a déjà un matériau.
Oui, et l'arrangement ici, effectivement, tire cette chanson vers l'univers du gospel. On retrouve précisément Ole Kock Hansen, le vieil ami de NHOP, à ses côtés ici au piano. Il y a aussi Lennart Grufstedt à la batterie. Et puis, on va entendre quelques voix d'enfants, Pierre Boussaguet. Ce sont les propres enfants de NHOP.
Voilà, deux de ses filles. Nils Henning a trois filles. La grande n'a pas voulu chanter parce qu'elle avait déjà 9 ans. Donc, C'était plus vraiment une voix de petit enfant. Et par contre, les deux autres filles, il leur a proposé de commencer à chanter ce thème-là. Il faut savoir une chose, c'est que tous les enfants du Danemark, encore aujourd'hui, tous chantent cette chanson.
Et je vous laisse dire le titre, Pierre Boussaguet.
Ah! Alors le titre c'est « Un éléphant comme marchand heureux ».
Ce qui veut dire, à votre avis?
Ce qui veut dire, c'est un éléphant qui défile.
Il le fait comme marchand heureux. Il est le copain Schönes war im Wasser in Versand. Et den Bühler bin nur ein Elefant.
We'll be right back.
Elefanken, Mark Sherend, Ole Kokensen au piano, Lennart Grufstedt à la batterie et Nina Chopé bien sûr à la contrebasse, c'était en 1984. Parmi les projets personnels de Nina Chopé, il y a bien sûr le compositeur Nina Chopé puisqu'il a signé un certain nombre de thèmes. Certains d'ailleurs sont repris par d'autres bassistes comme Samba Petite que vous jouez vous-même, Pierre Bousseguet.
Oui, alors ce qui est de drôle, c'est que je n'ai jamais pensé jouer ces thèmes-là parce qu'ils sont écrits par un bassiste, simplement que je suis très touché par la qualité de ces mélodies. Et dans la musique de Nils Henning, il était pianiste, c'était quelqu'un qui avait un très grand sens mélodique. Et je me souviens, j'ai découvert ce disque-là, puisqu'il l'avait enregistré à Paris avec Alain Jean-Marie, le pianiste. Tout de suite, j'ai eu ce thème dans l'oreille.
Alors on vous écoute ici au Studio 119, dans cette composition de Nina Chopé, Samba Petite, Pierre Bousseguet. Merci Pierre Bousseguet pour cette Samba Petite, cette composition de Nils Henning Gösta Pedersen qu'il jouait magnifiquement et que vous avez donc reprise ici au studio 119 à Radio France. Nils Henning Gösta Pedersen qui, dans ses projets personnels, s'associait souvent avec des musiciens, bien sûr, danois ou de la région, comme le trompettiste Pelle Mikkelborg. Et là, ils vont reprendre une sorte de tango très populaire qui a été enregistré des centaines de fois, hein, qui date du début du XXe siècle. Ça s'appelle le tango jalousie, mais ils en font quelque chose de tout à fait original et personnel. C'est un drôle de disque.
J'ai acheté ce disque récemment, lors de ce voyage récent au Danemark. Bien sûr, je connaissais la collaboration musicale entre Mikkelborg et Nils Henning. Et donc, j'ai passé le disque. Et vous allez voir, là depuis, j'ai renouvelé l'expérience. Vous allez voir, on ne voit pas cette mélodie arriver. Ouais. Et tout à coup, au milieu du morceau, l'oreille commence à vous dire, mais je connais, qu'est-ce que c'est ce morceau? Et en fait, c'est Jalousie. Je suis un ancien accordéoniste de bal. J'ai joué un petit peu de bandoneon. Je connais ce morceau depuis mon enfance.
Ah oui, c'était un tube. C'est parce que c'est saucisson du bal. Ouais.
Voilà, et vous avez fait la recherche, Arnaud. Il se trouve que le compositeur, donc c'est à vous de le dire.
Oui, c'est Jacob Gad qui est un compositeur. Alors, ce n'est pas Niels Gad, hein, le grand compositeur danois. C'est Jacob Gad qui est de la génération suivante. Mais effectivement, ça a été composé au début du siècle.
Voilà, par un Danois. Voilà. La boucle est bouclée.
Bien sûr. Et on entend aussi le chœur Ars Nova, dirigé par Boholten, qui est un formidable chef de chœur très connu, qui se joint à cet ensemble réuni autour de Pelle Mikkelborg et de Enna Chopé, Tango Jalousie.
Thank you.
Tango Jalousie, repris en 1990 par Enna Chopé, avec notamment à ses côtés le formidable trompettiste Palle Mikkelborg. Il est vraiment ici au mieux de sa forme en 1990,
Pierre Bousseguet. Époustouflant. Il joue, il y a un son très amplifié, c'est voulu en plus par ce projet. On a même le doute, par moment, si c'est pas possible, il a pris une guitare basse pour faire ça.
Il a tourné dans le monde entier, mené des projets personnels, continué à jouer avec d'autres musiciens, à partager la scène avec des solistes. Et puis en 2005, il nous a quittés, il n'avait que 58 ans, pas tout à fait 59.
Oui, de manière totalement inattendue, surprenante. Moi, ça a été vraiment un choc, et maintenant je peux le dire. Le jour où le téléphone a sonné, où j'ai appris que Kurt Nissening était parti, mais j'étais effondré, ça a duré deux ou trois jours, et la seule réaction que j'ai eue, je dis bon, au bout de deux jours, faut que j'en sorte, quoi. Mais vraiment, la vie s'était arrêtée. J'ai simplement écrit un morceau. Je me suis mis au piano et en 10 minutes, j'ai fait un morceau et je trouve que c'était la meilleure chose à faire.
Et cette mélodie s'intitule Enna Chopé, tout simplement.
Oui, parce que j'avais pas la moindre idée pour le moindre titre et c'est sorti comme ça.
Et vous l'avez enregistré quelques années plus tard avec le guitariste Boulou Ferré.
Oui, je dis un superbe bravo à Boulou parce qu'il a repris exactement tous les voicings très précis que j'avais écrits au piano. Et faire ce qu'on fait sur un piano, sur une guitare, c'est en général pas possible. Et Boulou a trouvé le moyen de respecter même des intervalles de secondes, pour parler un petit peu technique, c'est pas facile à faire sur une guitare.
On se quitte avec votre composition en hommage à Enna Chopé, Pierre Bousseguet. Ici, vous êtes en duo avec Boulou Ferré.
Est-ce que je peux dire un coucou? Alors, je voulais dire en anglais un coucou à l'épouse de Neil Senning et à leurs trois filles qui savent que nous faisons cette émission et qui ont demandé une copie. Donc, je leur dis Zeltak.
Merci beaucoup à vous, Pierre Bousseguet, d'être venu dans cette émission pour évoquer Enna Chopé.
Je ne cesse de me délecter de ça.
Alors, bon appétit et bonne journée, Pierre Bousseguet. Merci à Jean-Michel Bernaud et Sacha Trop pour la prise de son de cette émission que Dorothée Gold m'a aidé à préparer et que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine, une émission que l'on peut réécouter sur francemusique.fr, le site de France Musique. Et bien sûr, je vous engage à vous abonner au podcast. Thank you.